Mais Seigneur, on est assemblés devant toi ce matin. On est assemblés devant toi, Seigneur, pour écouter ce que tu as à nous dire. Père, je reçois ce chapitre-là comme une lettre que tu nous as écrite, Seigneur, pour nous raconter combien ton Fils Jésus-Christ s'est manifesté avec puissance à cette époque, Seigneur. Combien ce qu'il avait promis s'est accompli, Seigneur. Et pour nous donner justement une vision de ce qui devait continuer de s'accomplir dans les siècles à venir, jusqu'à ton retour, Seigneur. Seigneur, je reçois ce chapitre comme une exhortation personnelle à prendre courage, à aller de l'avant, à proclamer l'Évangile de Jésus-Christ. Père, je te prie de venir fortifier nos cœurs, rafraîchir notre vision. Nous donner, Seigneur, courage pour que nous écrivions un nouveau chapitre de ce livre, Seigneur. Et que nous continuions cette histoire là où tu nous as placés, Seigneur, dans notre mission. Dans nos foyers, dans nos quartiers, Seigneur, avec nos collègues de travail, dans cette ville de Longueuil, Seigneur. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Tu es puissant. Tu as vaincu la mort sur la croix. Tu es ressuscité d'entre les morts et tu nous as donné ton esprit. Que ton esprit nous parle ce matin. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. Amen. Le livre des Actes commence par, on retourne au début pour commencer, le livre des Actes commence avec une promesse absolument incroyable. On lit dans Actes 1-8, voici ce que Jésus écrit ou ce qui est rapporté dans Actes 1-8 des paroles de Jésus. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette promesse-là était incroyable. Ce n'était pas, à vue humaine, ce n'était pas quelque chose de réaliste, de penser que ça allait s'accomplir. Pour toutes sortes de raisons. Lorsque Jésus meurt sur la croix, ensuite de ça ressuscite, il a son ascension, il s'en va vers le Père. On a quoi? 150 disciples à peu près? 150 personnes, grosso modo, qui sont là pour porter ce message-là, non seulement à Jérusalem, on sait ce que les Juifs dans l'ensemble pensaient du message, ils viennent de crucifier le Messie. Mais non seulement là, mais dans toute la Judée. Non seulement dans toute la Judée, mais dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette promesse-là est incroyable. C'est peu probable que ça s'accomplisse. Quelque temps plus tôt, cette même gang de disciples-là est en train de se pousser, de se sauver, prendre leurs jambes à leur cou. Et Jésus leur dit, « Vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. » Cette équipe-là n'était pas une équipe de grands génies. D'accord? C'était pas des gens éminemment instruits. C'était des gens, pour la vaste majorité, de peu d'instruction. Et ce n'était pas de fin stratège. Aujourd'hui, lorsqu'on pense à faire quoi que ce soit, je veux dire, une des premières choses qui vient sur la table, même souvent, avant même de prier, malheureusement, c'est, OK, c'est quoi la stratégie? C'est quoi le plan de match? Ces gars-là avaient aucun plan de match. Ils n'avaient aucune stratégie. Il n'y avait pas de fin stratège dans cette équipe-là. On n'avait pas de plan de match. Et peut-être à quelque part aussi, c'était bon. Hein? Mais Jésus fait cette promesse incroyable. Et tout le long du livre des Actes, en fait, le livre des Actes, on l'appelle parfois le livre des Actes du Saint-Esprit, parce que ce qui nous est démontré à travers tout ce livre-là, c'est que Jésus va accomplir sa promesse. C'est une prophétie, c'est une promesse de quoi? Ça va s'accomplir. Parce que le Saint-Esprit, cette puissance, vient d'en haut, vient sur les disciples, et tout au long du livre des Actes, ce qu'on voit, c'est l'accomplissement. Et c'est ça que Luc cherche à souligner, à démontrer. Cette même puissance qui était sur Jésus, on va faire une série dans Luc, dans la prochaine environ, dans une quinzaine de mois, on va aller à travers l'Évangile de Luc ensemble, et on va voir que ce même esprit qui est sur l'Église était aussi sur Christ. Et donc, cette même puissance à travers l'Esprit-Saint qui était sur Jésus, à travers tout son ministère, et là aussi avec les premiers disciples, et là avec l'Église. Et Luc est en train de dire, regardez, Jésus avait dit que les disciples feraient des choses plus grandes que lui, mais regardez tout ce qu'ils ont atteint. Et c'est ce qu'il est en train de raconter ici. On voit des gens qui étaient peureux quelques temps plus tôt devenir remplis de courage. Ceux qui les questionnent, ceux qui les interrogent, comprennent pas d'où vient toute cette force-là qui est en eux. On voit des gens qui haïssaient les chrétiens, se convertir, devenir chrétiens. Des gens qui mettaient à mort des chrétiens, se convertir, devenir chrétiens, porter ce message-là à leur tour, devenir missionnaires à leur tour. On voit des chrétiens se faire persécuter à cause de l'Évangile. Certains sont mis à mort. Et pourtant, l'Église continue à porter son message. On voit des miracles se faire par centaines, spécialement par les mains des apôtres. Il y a cette puissance de l'Esprit qui était présent dans le ministère de Jésus qui est présent avec l'Église. Et au fur et à mesure qu'on avance à travers le livre des Actes, on ne voit pas une secte dirigée par un gourou qui a été éliminé, crucifié, rappelez-vous. C'est ce que certains grands sages avaient dit, si ça ne vient pas de Dieu, ça va mourir avec lui. Et ils l'ont crucifié, est-ce que ça s'est arrêté là? Le livre des Actes nous raconte, lorsqu'on arrive à la fin, que les Juifs là-bas disent, mais on n'arrête pas d'entendre parler de vous autres. Et ils les percevaient à ce moment-là comme une secte juive, un petit mouvement parmi les Juifs. Mais vous arrêtez pas, on n'arrête pas d'entendre parler de vous. On n'a pas eu d'accusation sur toi, Paul, mais raconte-nous l'histoire des chrétiens. On n'arrête pas d'entendre parler de ça. Et donc, tout au long du livre des Actes, Luc nous fait la démonstration que cette promesse peu probable, incroyable que Jésus a faite, qu'une poignée d'hommes et de femmes, qui étaient faibles, fragiles, peureux, allaient recevoir une puissance de Dieu, l'Esprit Saint venant sur eux, et deviendraient des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'Évangile se répand et des églises sont implantées un peu partout dans l'Empire romain. L'Évangile rejoint des gens de toutes les nations, des gens de toutes nations qui entendent l'Évangile se convertissent. La promesse de Jésus s'accomplit. Puis on arrive à la fin du livre des Actes. Si vous avez été attentif, vous aurez remarqué, Luc veut souligner, après avoir rencontré tellement d'opposition de la part des Juifs, partout où Paul va, les Juifs sont là pour essayer d'étouffer, de faire taire le message de l'Évangile. Et c'est clair dans le dernier chapitre, Luc veut souligner l'accueil, au contraire, que Paul va recevoir, que l'Évangile va recevoir, même jusqu'à Rome. Ils sont considérés et protégés par le centurion, le centenier romain sur le navire. Au moment où les autres soldats veulent les mettre à mort tous les prisonniers, ils disent non, cet homme-là avait détecté en Paul quelque chose qui était extraordinaire. Ils sont accueillis par les habitants de l'île, d'accord? Ils sont accueillis par l'homme le plus important de l'île qui va les prendre sous sa protection. Il y a une espèce de collaboration bon enfant entre les chrétiens, entre les missionnaires, prisonniers et les gens qui les accueillent. Où ils sont accueillis, puis les chrétiens les bénissent eux-mêmes en priant, guérissant, toutes sortes de choses. Et c'est sous-entendu évidemment que l'Évangile est annoncé là. Ils sont accompagnés et accueillis jusqu'à Rome. Lorsque des amis les rencontrent à Pouzol, Paul, là, les chrétiens vont dire, écoute, faut que tu restes ici 7 jours. Le gars est prisonnier, tu sais. C'est un convoi de prisonniers. C'est un convoi carcéral. Puis, il arrive dans une ville, puis il y a des gens qui disent, ouais, mais Paul, moi, je t'ai jamais entendu prêcher live. Puis, t'es là, puis tu penses, je sais, t'as des chaînes, mais on peut-tu comme prendre une entente avec tes gardiens, puis on fait juste ranger le troc de côté, puis vous restez 7 jours. On construit une tente, on fait une grosse campagne d'évangélisation, parle avec les soldats, ils disent, ouais, ok, c'est cool, on reste 7 jours ici. Les chrétiens prennent soin d'eux, sans l'ombre d'un doute, s'occupent des soldats, les nourrissent. Il y a quelque chose de pas normal dans tout ça. Le gars, il est prisonnier. C'est plus un prisonnier, c'est un chum qui a des chaînes. Parce que le Saint-Esprit est là, accompagne de sa puissance. Ils sont accompagnés, comme je l'ai mentionné, accueillis puis accompagnés à Rome. Si vous voulez faire une étude intéressante, prenez les 2-3 derniers chapitres, regardez tout le procès, comment le procès de Paul se conduit. J'aurais aimé ça faire un message juste sur ça. Le procès de Paul puis son entrée à Rome, il y a définitivement une comparaison qui est faite avec le procès de Jésus. Et son entrée triomphale à Jérusalem, définitivement, Luc est en train de dire, c'est le même esprit qui était sur le Messie, qui est sur les enfants de Dieu, qui est sur Paul ici. Et le procès comporte les mêmes injustices, les non-juifs qui veulent se laver les mains, qui disent non, mais il n'est pas coupable, lui. Il n'est pas coupable, on n'a pas de raison de le condamner, mais les Juifs sont là, courent après, veulent se débarrasser de lui. Et là, il arrive là à Rome, et il va rentrer à Rome, il est prisonnier. Il va rentrer à Rome accompagné par ses amis. Et lorsqu'il arrive à Rome, voici comment il est accueilli. On lui permet de louer un appartement et dans son appartement, avec une grande liberté, il va annoncer l'Évangile constamment. Les gens viennent le voir. À Rome, la capitale de l'Empire. Lorsqu'on arrive à la fin des Actes, on n'est pas encore rendu au bout du monde parce qu'il manque des chapitres à ce livre-là. Mais ce que Luc est en train d'illustrer, c'est attendez un petit peu. Cette soi-disant secte juive qui devait mourir avec la crucifixion, la mise à mort de leur chef, tout ça, est rendue à Rome et prêchée avec beaucoup de liberté, enchaînée, beaucoup de liberté. Va être prêchée dans le prétoire. Si vous êtes avec nous depuis quelques semaines, vous savez ce qui se passe lorsque Paul arrive en cour, il commence à prêcher l'Évangile. Il a pratiqué son approche évangélisation explosive 2 minutes, il est prêt à la sortir n'importe quand. Quoi? Vous me donnez 2 minutes, 2 minutes, je vous défile ça. Constamment. C'est ça qui s'est passé à Rome. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il se rend à Rome, l'Évangile est en train de pénétrer la ville, la capitale de l'Empire, et de là va repartir. Va repartir après dans toutes les directions. Parce qu'à chaque fois, c'est ça qui se passe. Il y a des gens qui se convertissent et chaque nouvelle âme qui est gagnée à Christ devient un missionnaire. Un porteur du message de l'Évangile. Et l'Évangile va repartir de plus belle de Rome et va se répandre un peu partout dans l'Empire encore davantage. Et le livre se termine sur une drôle de phrase. Il est enchaîné, mais le ton est comme exalté. C'est comme Luc est là sur le bout de son siège puis il est en train de dire « Attendez que je vous raconte comment ça se passe lorsqu'il est là à Rome. » Et voici ce qu'on lit. « Il demeura 2 années entières au domicile qu'il avait loué. » Il accueillait tous ceux qui venaient le voir. Il proclamait le règne de Dieu et enseignait en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. L'Évangile est proclamé à Rome. Jésus avait promis quelque chose. Jésus avait promis. Il dit, « OK, les gars, je sais, vous êtes nerveux. Il y a quelques semaines, vous êtes poussés comme une gang de chicken. Vous m'avez laissé tomber. Faites-vous-en pas. Je m'en vais, mais vous ne serez pas seul. Vous allez recevoir mon esprit et vous allez être transformé en profondeur. » Et ce message-là que je vous ai communiqué, tout ce que vous allez mettre en place comme pièce du casse-tête, où vous allez comprendre enfin pourquoi le Messie devait être crucifié, mourir sur la croix, ressusciter, ces choses-là sont en train de se mettre en place. L'Esprit va vous accompagner, va vous aider à saisir ces choses-là. Et boum, ça va exploser cette affaire-là. Vous allez répandre ce message-là jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus l'a promis et sa promesse s'accomplit. Et sa promesse continue de s'accomplir. Et sa promesse continuera de s'accomplir jusqu'à ce que Christ revienne. Amen. Continuera de s'accomplir parce que depuis 2000 ans, ce message-là se répand sur la terre. Depuis 2000 ans, bon an, mal an, si c'est bien accueilli ou si ça finit mal. Vous savez, la fin de l'histoire de Paul, pour autant que l'histoire de l'Église, les autres écrits qu'on a, bien, on pense qu'il a été libéré, tout probablement qu'il a été libéré quelque temps, à la fin des 2 ans, comparu, tout ça libéré, peut-être pour à peu près 4 ans. Probablement qu'il a commencé à accomplir son rêve d'aller vers l'Espagne davantage, aller annoncer l'Évangile là-bas, mais assez rapidement, il est arrêté et il va terminer. Décapité. Citoyen romain, on ne peut pas le crucifier, on va le décapiter, on est gentil avec ceux-là. Mais l'Évangile va continuer. C'est intéressant de voir que Luc ne s'est pas arrêté là. Parce que depuis 2000 ans, Jésus continue à bâtir son Église. Et des gens de toutes les nations de la terre, lorsqu'ils entendent l'Évangile, viennent à l'Évangile de Jésus-Christ, croient en Jésus-Christ comme leur sauveur personnel. Un message qui, à l'origine, avait l'air d'une patente pour une gang d'hébreux avec des longues barbes, dans un milieu à Gougoun, puis tout le kit, c'est quelque chose qui devrait, à un moment donné, être dépassé culturellement, ne plus être à propos, ne plus adresser des réalités, continue à se répandre partout sur la terre, dans toute culture, dans tout milieu. Il n'y a rien qui va l'arrêter. Même lorsqu'il y a de l'opposition agressive, l'Évangile continue à faire son chemin. Cette semence qui a été déposée et nourrie par l'Esprit de Dieu, Christ accomplit sa promesse depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans, et il va continuer à le faire jusqu'à son retour. Jusqu'à son retour. Alors, qu'est-ce que ça implique pour nous, ça? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici? Maintenant. Mais je pense que c'est le passage cité par Paul dans Ésaïe qui nous éclaire sur ça, qui nous aide à voir notre rôle maintenant là-dedans. C'est vraiment intéressant. Luc veut quand même souligner à la fin des actes tout l'attachement, le désir de voir le peuple d'Israël venir à la connaissance de Christ. Et donc, Paul fait comme il fait à chaque fois lorsqu'il arrive dans une ville. Il arrive, puis d'habitude, il trouve où les Juifs se réunissent dans des synagogues. À l'époque, on pense qu'il y avait au moins 6 synagogues à Rome, d'accord? Mais donc, Paul serait probablement allé dans une des synagogues, peut-être qu'il aurait fait le tour des synagogues normalement, et prisonnier. Alors, il ne peut pas le faire. Alors, il loue un appartement, s'installe dans son appartement. Première chose qu'il fait, convoque les Juifs, les autorités. Il dit, venez me voir, les boys. On va mettre les cartes sur table. Et qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut leur annoncer l'Évangile. Et il leur annonce l'Évangile à ce moment-là. Et donc, Luc veut simplement nous rappeler encore une fois ce désir sur le cœur de Dieu de voir les Juifs venir à la connaissance de l'Évangile. Paul va vers eux. Certains vont croire dans son message. Certains vont être bouleversés, vont être transformés par ça. Le texte est super clair. Au verset 24, les uns furent persuadés de ce qu'il disait. Et dans le récit ici, ça semble être une journée. Paf, il y en a qui saisissent. Oui, le Messie est venu. C'est Jésus-Christ. Mais plusieurs ne croiront pas. Plusieurs vont rejeter ce message-là. Et ce que Paul fait, c'est qu'il va citer le prophète Ésaïe. Quelques 700 ans plus tôt, Ésaïe avait été envoyé vers le peuple d'Israël, le peuple juif. Et donc, une prophétie, un message de la part de Dieu avait été donné à son prophète pour qu'il le donne à son peuple. Et Paul dit ici, il dit ce même texte-là s'applique ici, aujourd'hui, maintenant. Parce que vous êtes comme vos pères. Vous êtes comme vos pères. Ésaïe 6, versets 8 à 10, mais je vais le lire ici dans le livre des Actes. Je commence un tout petit peu plus tôt, d'accord, pour donner le contexte. J'entendis la voix du Seigneur. Alors dans Ésaïe 6, 8, j'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? » Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, et là on retrouve le passage cité dans Actes, « Va vers ce peuple et dis, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez jamais. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez jamais. Car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles et ils ont fermé les yeux de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour. Je les aurais guéris. » Ceux d'entre vous qui disent « Ouais, mais attends un petit peu, là, mon texte dans l'Ancien Testament, puis ici, c'est pas la même chose. » Paul est en train de citer, technique, Paul est en train de citer le texte grec, la version grecque de l'Ancien Testament, la Septante, et l'espèce d'ironie de Dieu où il dit « Vous ne vous convertirez pas. Vos cœurs sont trop durs. Vous ne vous convertirez pas. Je ne permettrai même pas que vous vous convertissiez. » Dans la Septante, ça a été rendu comme ça, ici, l'ironie est un peu moins forte. Car le cœur de ce peuple s'est engourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles et ils ont fermé les yeux de peur de voir avec leurs yeux, d'entendre avec leurs oreilles, de comprendre avec leur cœur et de faire demi-tour, je les aurais guéris. Et Jésus lui-même va citer ce passage-là lorsqu'il est en train d'expliquer aux disciples pourquoi est-ce que parfois il enseigne avec des paraboles puis il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre et Jésus va leur dire, oui, mais regardez leur attitude initiale, regardez leur réponse initiale. Comment est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'il y a cette humilité dans leur cœur? Non, il ne leur sera pas donné davantage de révélation parce que leur cœur est dur et fermé. Vous m'avez cherché, vous étiez ouvert, je vais vous expliquer les paraboles. Et Jean, dans l'Évangile de Jean, va le citer aussi pour expliquer encore une fois, la dureté, la fermeture du cœur. Avant de regarder l'attitude des gens, avant de parler du cœur, peut-être de ton cœur, de ta réponse à toi à l'Évangile, peut-être tu es dans l'Église depuis ta tendre enfance et l'Évangile ne pénètre pas ton cœur. Peut-être que tu commences à entendre parler de l'Évangile. Avant de parler de ton cœur, j'aimerais te parler du messager. Parce que tout commence par le messager. Il n'y a pas de réponse s'il n'y a pas de messager qui va. Et donc, le texte commence avec cette idée « va ». Lorsque Dieu demande à Ésaïe « qui va aller porter ce message-là? » Ésaïe dit « présent, c'est moi. Je suis prêt à le faire. » Tout commence par le messager. Tout a commencé dans ta vie chrétienne par le messager qui a répondu « présent » et qui a dit « je suis prêt à le faire, je suis prêt à porter ce message-là. » Et tout va se continuer à travers tous ces siècles, pendant 2000 ans. L'histoire s'est continuée parce que des millions de chrétiens ont dit « Moi, Seigneur, présent, je vais le porter le message de l'Évangile. Je suis prêt à le porter. Tu me l'as donné. Quelqu'un me l'a donné. Je vais le redonner, ce message-là. » Et la particularité avec l'histoire d'Ésaïe, c'est qu'Ésaïe connaît déjà la réponse au message. Parce que Dieu lui dit, OK, tu vas y aller maintenant, je veux juste que tu saches, tu vas apporter le message et ils ne t'écouteront pas. Tu vas apporter le message et ils ne t'écouteront pas. Parce que leur cœur est trop dur. Mais je veux qu'il y ait ce témoignage qui tienne entre mon peuple et moi, que mes prophètes sont allés, ils sont allés, ils sont allés, ils sont allés encore. Je veux qu'ils sachent, je veux qu'il y ait une trace dans leur histoire, dans l'histoire de ce peuple. Que ma compassion, ma grâce, mon appel à revenir à moi a été constant vers eux. Mais je te le dis, ils ne t'écouteront pas. Et pourtant, Ésaïe dit, présent, moi j'y vais, Seigneur. Je suis prêt à aller porter ce message-là. Ça commence par une personne qui ouvre la bouche. Ça a commencé comme ça dans ton histoire. Je ne sais pas qui t'a parlé de l'Évangile. Est-ce que c'est ta mère, ton père, ta famille, un collègue de travail? J'ai entendu l'Évangile, je vous dirais, par la bouche d'au moins 6 ou 7 personnes avant de me convertir 10 ans plus tard. Ça commence par ta décision aujourd'hui, si tu es chrétien, de dire, moi, je vais participer, je vais écrire un autre chapitre à ce livre-là, au livre des Actes. Je vais porter ce message-là. Et comme on le voit dans le passage, ça ne veut pas dire que tout le monde va croire. Au contraire, le texte est même assez sombre et il nous dit que certains vont endurcir leur cœur. On voit bien qu'il y en a qui acceptent le message. Au verset 24, les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, les autres ne crurent pas. Mais on sait que plusieurs vont endurcir leur cœur. Voyez-vous, dans la dynamique, il y a toujours 3 personnes. Il y a ce messager qui va, qui apporte le message. Il y a la personne qui reçoit le message et qui transige avec Dieu. Une fois que j'ai livré le message, je peux prier, mais ça se passe entre la personne et Dieu. Et plusieurs vont endurcir leur cœur, vont fermer leur cœur au message de l'Évangile. Maintenant, il y a une mise en garde. Lorsque Paul est en train de citer ce passage-là à ces gens-là, comme je l'ai dit la semaine dernière, chaque fois que Dieu est sévère et qu'il parle encore, chaque fois que Dieu donne un avertissement, chaque fois que Dieu annonce un châtiment, c'est que la repentance est encore possible. C'est super important de saisir ça. Parce qu'un jour, il n'y en aura plus d'annonce. Un jour, il n'y en aura plus de « reviens ». Un jour, chacun va comparaître devant Dieu. Devant un Dieu d'une bonté qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Et d'une sainteté qu'on est vraiment incapable de concevoir. Et le jour où on va se présenter devant lui, il n'y aura pas de question à dire, « Mais n'es-tu pas bon, Dieu, de ne pas m'accueillir dans ta présence? » Un jour, dans sa présence, il n'y aura plus de question. Frappé par la gloire, la majesté, la sainteté, la pureté de cet être-là, l'impureté de nos êtres, le mensonge, la fourberie, le péché, crasse dans nos cœurs, va faire qu'on n'aura même pas de questions. Et si Christ ne s'interpose pas, il n'y en aura pas de questions non plus lorsqu'on va être retiré loin de la face de Dieu. Et donc, Paul est en train de dire, c'est encore le temps de se repentir. Mais il le fait avec un ton beaucoup plus sévère. En bon québécois, il dit, vous êtes bouché, ben je vais vous boucher encore plus. Vous ne voulez rien savoir? Vous ne pourrez même plus entendre ma voix. Vous vous fermez les oreilles pour ne plus entendre ma voix. Enlevez vos mains pour voir. Vous ne l'entendrez même plus. Parce que je n'aurai plus rien à vous dire. Ailleurs, Paul dit dans un autre contexte, mais qui s'applique aussi, il dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Vous savez, moi, je ne fais pas juste des sermons, hein? Je célèbre des mariages aussi, je fais des funérailles. Puis il y a des funérailles où je vais, puis j'ai le cœur triste, comme tout dernièrement, mais en même temps rempli d'espérance, de joie, parce que je connais la foi de la personne. Il y a d'autres fois, elles sont pas mal plus difficiles. Parce que la famille vient me voir, puis ils me disent, « Puis, qu'est-ce que tu en penses, Yannick? » À la grâce de Dieu, moi, je ne peux pas juger. Si je vous donne cette réponse-là, posez-vous pas de questions. Si je vous donne cette réponse-là, posez-vous pas de questions. Il faut que Dieu ait fait quelque chose dans les dernières fractions de seconde, parce que tant qu'à moi, il n'y a pas de fruit là. Et donc, ce que Paul est en train de dire, ce que Ésaïe est en train de dire ici, c'est « Ne remets pas à demain. » Demain, tu ne maîtrises pas. Demain, tu ne connais pas. Et réaliser les jugements de Dieu, réaliser la sévérité de Dieu, c'est encore l'occasion de se repentir. Mais traiter Dieu avec une espèce de légèreté où je dis « plus tard, on verra ça. Je t'entendrai un autre jour. Mais quel autre jour est entre tes mains? Qui ici possède sa vie? » Hier, je sors avec les enfants, puis mon voisin a une belle grosse Mustang, bleue, écœurante. Le hood, il est plié comme ça. Comme je suis très humain, j'ai pensé premièrement au char. J'ai dit, il est plus beau. Mais la vérité, c'est que mon voisin aurait pu ne pas rentrer à la maison. Plus jamais. Plus jamais. On ne se moque pas de Dieu. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui en vous humiliant et en venant dans la présence de Dieu. Et c'est vrai, ça demande un minimum d'humilité. Ça demande cette humilité de reconnaître que vous n'êtes pas parfait, que vous avez besoin de la grâce de Dieu. Ça demande l'humilité de m'arrêter et puis de dire, peut-être qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi, en fin de compte. Peut-être que je ne maîtrise pas ma vie pour de vrai, en fin de compte. Peut-être que j'ai besoin d'un guide, d'un sauveur, d'un roi, d'un chef sur ma vie. Ça demande cette humilité-là. Dieu a offert son Fils Jésus-Christ en sacrifice pour le salut des hommes. Il veut sauver. Et le livre des Actes nous le démontre tout le long. Parce qu'il envoie ses enfants qui sont prêts à mourir juste pour porter ce message-là. Oublie le plan de carrière. Le plan de carrière, c'est de prêcher Christ. C'est ma carrière. Puis la fin, c'est quand je rentre dans sa gloire. Dieu veut sauver les hommes. Ça demande un minimum d'humilité de ta part. De réaliser que ta vie, c'est une vapeur, qu'elle peut partir n'importe quand. Et de réaliser qu'aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui. J'exhorte de tout mon cœur. Couche-toi pas ce soir sans avoir réglé cette question-là avec Christ. Parce que demain, il n'y en aura peut-être pas. Puis je t'en souhaite des années encore. Mais si tu continues à venir, chaque dimanche, je vais te répéter ça. Certains Juifs ont entendu le message, ont été réceptifs, ils ont compris le message du salut. D'autres ont été fermés. Et Dieu leur donne une dernière mise en garde. Il leur dit, si vos cœurs sont fermés, ça se peut que vous ne m'entendiez plus. Et c'est une vérité biblique. Dans les Écritures, on voit des moments où Dieu livre l'homme à lui-même. Et la pire chose que Dieu peut faire à un homme, c'est de dire, c'est correct. Je ne mets plus aucune retenue. Je ne te protégerai plus de toi-même. Je te livre à toi-même. Imaginez un enfant de 5 ans à qui vous dites, tu fais tout ce que tu veux maintenant. Tout ce que tu veux. Les couteaux sont là. Les clés du char sont là. Fais tout ce que tu veux. Et si Dieu fait ça sur ta vie, que Dieu ait pitié de toi. Est-ce que ton cœur est ouvert? Est-ce que ton cœur est humble? Est-ce que ton cœur est ouvert à l'Évangile? Et si à quelque part tu dis, oui, je cherche, mais je ne comprends pas, simplement, en sortant d'ici, maintenant dans ton cœur, va dans la prière et dis, Seigneur, je suis un être humain, ma vie est limitée, Seigneur. Je réalise ma petitesse dans cet univers, je réalise que le nombre de mes jours m'est compté, Seigneur. Et je veux te connaître, toi, le Dieu infini. Seigneur, j'ai marché loin de toi, rebelle, fermé. Mais j'ouvre mon cœur ce matin, Seigneur. Je veux que tu me parles. J'ai besoin que tu me parles de ton amour. Parce que je n'irai pas à un autre Dieu qu'à un Dieu d'amour. J'ai besoin que tu me parles de ce que Jésus a fait à la croix pour mes péchés. J'ai besoin que tu me parles d'éternité, j'ai besoin que tu me parles d'espoir, j'ai besoin que tu me parles de de ce que tu vas faire avec ma vie, Seigneur, parce que je ne donnerai pas ma vie à un Dieu qui ne va pas la transformer, me faire grandir, me guider. J'ai besoin que tu me parles de toi, de la croix de Jésus-Christ. Et dans sa grâce, une vie nouvelle va naître en vous. Une vie nouvelle va naître en vous. Des choses qui semblaient tellement difficiles, je ne dis pas que ça règle tout du jour au lendemain, hein, mais des choses qui semblaient tellement difficiles, ouf, comme une joie de dire, Seigneur, c'est toi qui me conduis. C'est toi qui me dirige, Seigneur. Et à un certain moment, il y a des convictions qui viennent sur ton cœur. Tu es convaincu qu'il y a des choses que tu as faites qui n'étaient pas adéquates. Ce n'est pas quelque chose qui te détruit. Tu t'en vas en prière, tu demandes pardon au Seigneur. Tu as offensé quelqu'un, il y a une nouvelle humilité. Je me suis humilié devant Dieu qui connaît mon cœur. Je peux aller vers des gens demander pardon. Ce n'est pas un problème. Je suis un pécheur. Ça va juste être l'occasion de manifester encore la grâce de Christ. Et Dieu résistera à ceux qui sont trop orgueilleux et qui ne veulent pas s'humilier. Alors, joue pas au fou avec Dieu. Joue pas au fou avec Dieu. C'est sûr que c'est lui qui gagne. C'est Dieu. Dieu veut nous ouvrir les yeux et il veut nous guérir. Ce qu'il veut faire à la fin, au verset 27, il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ce que Dieu veut faire, c'est sauver les hommes. Ce que Dieu veut faire avec ta vie, il veut te guérir, il veut te sauver. Il veut venir te donner un cœur nouveau. Et profondément à l'intérieur de toi, venir opérer ce miracle d'une guérison profonde qui va t'amener dans un nouveau chapitre de ta vie où tu vas commencer à vivre à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière de l'Évangile avec un cœur nouveau qui bat différemment. Et Dieu veut venir opérer cette guérison-là profonde dans ton cœur. Et c'est ça le message de Paul ici à la fin avec les Juifs. Il leur dit, regardez, allumez la gang. Parce que Dieu veut vous sauver. Et s'il faut que je vous pique, que je vous provoque en vous parlant des millions de non-Juifs qui vont se convertir, je vais vous en parler. Les uns furent persuadés par ce qu'ils disaient, les autres ne crurent pas. Et pourtant, l'Évangile a continué à avancer, à avancer, à avancer, à avancer. Alors, ce qu'on voit dans ce chapitre-là, c'est que Jésus a promis quelque chose au début du livre des Actes et sa promesse s'accomplit. Ce qu'on voit ensuite dans ce chapitre-là, c'est que ça se passe avec un messager qui va aller annoncer. Qui va aller annoncer à des oreilles qui vont être fermées, c'est vrai. Mais d'autres vont croire. Et alors même que Paul est en train de citer ce jugement-là sur les Juifs, dans le passage même, il nous est dit qu'il y en a qui se convertissent, qu'il y en a qui reçoivent le message de l'Évangile. Et lorsque j'arrive à la fin du livre, le livre se termine de manière étrange. Je ne sais pas si vous avez été attentif à la fin, mais versets 30 et 31... Paul demeura deux années entières dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. C'est comme un livre qui ne se termine pas. Qu'est-ce qui arrive avec Paul? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Qu'est-ce qui va arriver? S'il avait écrit à notre époque, je pense qu'il aurait écrit à suivre. Hier, avec Esther, on écoutait un épisode d'une télésérie, puis tout est en train comme de se résoudre, tu sais. Oh, on arrive vers la fin. Ben non, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il y a quelqu'un qui chauffe un char, puis qui frappe quelqu'un, puis là, tu dis, oh, OK, on est reparti pour une autre semaine. C'est ça qui se passe ici. Qu'est-ce qui arrive avec Paul? Qu'est-ce qui arrive avec l'Église? Où on s'en va avec ça? C'est comme si Luc avait terminé en écrivant à suivre. Trois petits points. Parce que cette histoire se continue. La vérité, c'est qu'il y a eu acte 29, acte 30, acte 31, acte 32, acte 4328. Puis après ça, il y a acte régional, acte dans chaque pays, à travers toute la terre, à travers toutes les époques. La vérité, c'est qu'il y a déjà des centaines et des centaines et des centaines de chapitres qui ont été ajoutés à ce livre-là. Et c'est pour ça que Luc termine sur cette espèce de sentiment d'exaltation où c'est correct, Paul est dans les chaînes, ils vont peut-être le zigouiller. Le Seigneur va se servir de quelqu'un d'autre, ça va continuer cette histoire-là. Parce que l'Évangile est accueilli. Là où l'Évangile est prêché, certains le rejettent et d'autres l'accueillent, d'autres se convertissent. Et donc cette histoire-là, c'est continué pendant 2000 ans. J'aimerais ça demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. La conclusion de ce livre-là, on la trouve dans l'Apocalypse. J'ai hâte de voir ce livre-là avec vous. C'est tellement exaltant. On va écrire le dernier chapitre lorsque Jésus-Christ va revenir. C'est ça la vérité. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, je vais écrire un chapitre dans ce livre-là. On ne sera peut-être pas inspiré du Saint-Esprit, on s'entend. Il n'y aura peut-être pas le même volume de lecture que les Actes des apôtres. Mais ça va être les actes du Saint-Esprit aussi. Je vous ai dit, on peut appeler ce livre-là le livre des actes du Saint-Esprit. Moi, je veux écrire un autre chapitre de ce livre-là. Est-ce que vous voulez écrire un autre chapitre avec nous ici, à l'Église de l'Espoir, pour notre génération? Écrire un autre chapitre pour la génération qui s'en vient, pour qu'elle lise cette histoire-là. Parce que voyez-vous, à travers toute l'histoire de l'Église, des millions de chrétiens ont continué à écrire cette histoire-là. C'est ça la vérité. C'est que des millions de chrétiens ont continué à écrire cette histoire-là. Et chaque fois qu'on a voulu faire taire cette histoire, elle renaît à chaque fois, à chaque fois. Je vous invite à étudier l'histoire de l'Église pour voir comment ça s'est passé dans les siècles qui ont suivi. Luc est super excité ici, mais attends un petit peu, là, les Romains aussi vont vous spotter la gang, vont commencer à vous jeter dans des arènes, puis essayer de vous massacrer, vous zigouiller. Puis plus tard, Tertullien va dire, le sang que nous versons est une semence de chrétiens. Il dit, on est partout, on est dans vos maisons, on est dans vos palais, on est dans vos entreprises, on est partout. Tout ce qu'on vous a laissé, c'est vos temples, c'est vos temples. Est-ce que vous voulez écrire un autre chapitre avec nous? C'est ça qu'on va faire ensemble. C'est ça qu'on va continuer à faire ensemble. Comme vous le savez, Luc l'a mentionné tout à l'heure, le conseil était généreux. Au printemps, j'ai pris 11 semaines de congés, repos, études. Puis j'ai pas juste fait de l'exercice, puis du jogging, puis de la course à pied, puis de la musculation. J'ai fait beaucoup d'autres choses aussi. Je suis allé visiter d'autres églises et je suis allé sur les bancs d'école. Avec quelque chose sur mon cœur, et ceux qui sont proches, vous le savez, quelque chose sur mon cœur qui dit, Seigneur, je veux plus. Je veux plus, Seigneur, pour cette église-là. Tu m'as placé ici pour servir avec des frères et sœurs qui sont amoureux de toi, Seigneur, mais je veux plus pour la ville de Longueuil, Seigneur. Je veux voir plus de gens venir à la connaissance de Jésus-Christ, être formés comme disciples de Christ. Et vous savez quoi? Dieu m'a béni dans ces 11 semaines-là. Ça m'a fait tellement, tellement de bien de revenir sur cette vision pour la mission, de comprendre l'Église qui grandit, puis comment on fonctionne en Église lorsqu'on est plus nombreux, puis on veut faire des disciples avec tout le monde. Puis on veut aller apporter un message dans notre culture, à notre époque. Comment on fait ça? Comment on fait ça le dimanche matin? Comment on fait ça pendant la semaine? Comment on forme des disciples ici? Dans quelques semaines, les anciens, on s'en va ensemble à une retraite de prière, de discussion, de réflexion. J'ai commencé à présenter aux gars, voici ce que je vois, comment je vois ça. On va aller discuter de ces choses-là. Priez pour nous, s'il vous plaît. Le 1er 2 novembre, on va être en prière, en train de discuter, en train de voir ces choses-là. J'ai tellement hâte de partager ces choses-là avec vous. On va commencer l'année avec une série sur la mission ensemble. On va parler non seulement de mission, mais d'Église aussi. Comment on fonctionne ensemble pour aller ensemble dans la mission? Parce qu'on a sur notre cœur d'écrire un autre chapitre à ce livre-là. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur Jésus, par ton esprit, tu es présent. Seigneur, tu as continué à écrire ce livre par ton esprit depuis des siècles maintenant. Sur les terres les plus fermées, les terres les plus arides pour l'Évangile, Seigneur. Et tu sais, ô Dieu, que le Québec a toujours été une terre difficile, Parce qu'à chaque fois que des missionnaires étaient envoyés en masse, il y avait un autre mouvement qui venait. Et combien de fois, Seigneur, il y a eu des vagues de migration de chrétiens du Québec qui sont partis vers les États-Unis, vers le reste du Canada. Parce que c'était difficile de s'afficher ici, Seigneur. Parce que c'était difficile de vivre la foi ici, Seigneur. Et pourtant, tu continues. Tu envoies des missionnaires, tu envoies ici Monsieur et Madame Beau, Seigneur. Et ils sont venus ici prêcher l'Évangile, annoncer l'Évangile à des Québécois. Et cette Église porte ce témoignage que tu continues à écrire ton histoire. Seigneur, dans ta grâce, conduis-nous. Remplis-nous de ton esprit pour que dans notre famille, à mon école, Seigneur, à mon travail, dans mon quartier, dans cette ville, Seigneur, je puisse avoir la foi, la conviction que ton esprit est là pour nous conduire et aller faire de toutes les nations des disciples, Seigneur. On a hâte que tu reviennes, mais on veut écrire un nouveau chapitre de l'histoire de l'Évangile ici au Québec et envoyer des missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur, jusqu'à ton retour. C'est en Jésus-Christ que je te le demande. Amen. Vous savez quoi? Lorsqu'on a commencé la série, on avait un acétate avec un gars qui est assis sur un sofa, un couch potato, qui était là, puis on appelait ça « passer aux actes ». C'était tout sauf ça. Bien, Oscar nous a retravaillé ça, puis notre couch potato a quitté le sofa. Il n'est pas juste allé aux toilettes se chercher du popcorn, il est parti dans l'action, prêcher l'Évangile, passons aux actes à notre tour. Amen!